était vendredi matin, insoumis, socialistes, communistes, écologistes réunis sous la bannière du nouveau Front Populaire, un accord sur la répartition des circonscriptions et surtout un programme de gouvernement en cas de victoire de la gauche le 8 juillet, le tout conclu avec une efficacité remarquée, 4 jours et 4 nuits de négociations. Bonjour Bastien Lachaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, député sortant et candidat LFI Nouveau Front Populaire dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir cette unité se fissurer. Ce week-end, on a entendu des critiques au sein des Insoumis, chez les partenaires de la gauche, après que votre parti a refusé l'investiture à plusieurs députés sortants, considérés comme des voix discordantes. Alexis Corbière, qui est concerné, évoque un règlement de compte, éviction scandaleuse pour le socialiste Olivier Faure, une purge même pour l'écologiste Marine Tondelier. Est-ce que ce n'est pas un très mauvais signal, un très mauvais message envoyé à ceux qui espéraient, face à l'extrême droite, un front véritablement uni de la gauche?
Je pense que le front de la gauche est reste uni. Les investitures de la France Insoumise appartiennent au parti de la France Insoumise et son comité électoral qui a décidé, et je soutiens cette décision, de considérer que lorsque l'on fait un nouveau front populaire, eh bien on doit s'ouvrir à des personnalités de la société civile et écouter aussi ce que disent les militants sur le terrain. Ce sont deux principes qui ont guidé son choix. Il y a eu des remontées des militants de terrain, notamment dans les circonscriptions que vous avez évoquées, mais aussi et surtout, je voudrais en parler, il y a des candidatures de la société civile sur ces circonscriptions. Je pense à la médecin Sabrina Ali Benali sur la circonscription de Montreuil-Bagnolet, qui est l'auteur du livre La révolte d'une interne, qui défend l'hôpital public. Je pense à Céline Verzelletti dans la 15e circonscription de Paris, qui est une ancienne dirigeante d'une des plus grandes centrales syndicales de ce pays. Je pense que notre Front populaire doit s'enorgueillir d'avoir de telles candidatures dans ses rangs.
Mais est-ce que c'était le moment de se débarrasser des frondeurs?
Mais c'est pas une question de se débarrasser des frondeurs. Il y a des investitures, il y a un comité électoral, il écoute ce que disent les militants sur le terrain. Moi, je veux bien qu'on parle de démocratie, mais que quand des militants s'expriment, on dise qu'ils non, il faut balayer ce qu'ils ont à dire pour sauver des députés sortants, je ne suis pas d'accord.
François Ruffin, pour le citer, l'extrême droite tape à la porte du pouvoir et que font-ils? Ils divisent. Que lui répondez-vous?
En quoi avons-nous divisé? Nous avons investi des candidats de la société civile, nous avons rassemblé plus largement encore que ce que le Front populaire faisait. Ceux qui divisent, ce sont ceux qui maintiennent leur candidature et ceux qui soutiennent des candidatures dissidentes contre les candidats du Front populaire.
Sur le cas d'Adrien Quatennens, vous n'avez pas divisé en décidant de le maintenir jusqu'à ce que finalement il décide de se retirer. On rappelle que ce député avait été condamné pour violence conjugale.
Nous ne croyons pas à la justice éliminatrice d'élimination. Ce n'est pas parce que l'on a été condamné, que l'on a purgé sa peine, que l'on ne peut pas être réélu, etc. Adrien Quatennens a pris une décision, je la respecte, mais aujourd'hui, la question ne se pose pas.
En tout cas, cette campagne maintenant s'engage. Du côté du Rassemblement National, Bastien Lachaud, il ne vous a pas échappé qu'il est clair depuis le début que Jordan Bardella incarnera cette alternance, si alternance il y a. Il se positionne déjà comme le futur Premier ministre. Est-ce que du côté du Nouveau Front Populaire, il n'y a pas un vrai problème d'incarnation, justement?
Oui, bon. J'ai bien compris que vous vouliez que nous passions toute l'interview, non pas à discuter
absolument
du programme.
Pas. C'est une des questions et on va en venir au programme dans un instant.
Exactement. Mais alors, répondons à cette question. Olivier Faure a fait une proposition qui me semble tout à fait pertinente. C'est-à-dire que la force qui sortira première au sein du Front Populaire présentera et pourra faire une proposition sur la personnalité du Premier ministre. Moi, cela me va très bien.
Si c'est la France Insoumise, qui sera mise en avant?
Nous en discuterons.
C'est déjà un débat et on sait que certains déjà se positionnent contre Jean-Luc Mélenchon. Il a dit la semaine dernière j'en suis capable et qui
exactement.
Aujourd'hui dit je ne demande rien.
Non, mais il a tout à fait dit. Il a dit depuis lundi qu'il s'en sentait capable, mais que ce n'était pas un préalable, que ce n'était pas une condition. Jean-Luc Mélenchon a une boussole tout au long de sa vie politique. Il est toujours là pour apporter des solutions et ne pas créer de problèmes.
On en vient au programme du Nouveau Front Populaire, Bastien Lachaud, puisque c'est effectivement l'essentiel. Sur les questions économiques d'abord, fin de la retraite à 64 ans avec l'abrogation des décrets de la réforme Macron, blocage des prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie, les carburants,
les loyers, salaire
minimum à 1600 euros net, indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce que tout cela a pu être chiffré Aurélie Trouvé disait ce week-end, nous sommes en train de faire chauffer les calculettes. Est-ce que c'est chiffré aujourd'hui, à 15 jours du vote, à 13 jours du vote?
Alors, beaucoup de ces mesures étaient dans le programme de la NUPES, qui, lui, était totalement chiffré. Là aujourd'hui, je pense que nos économistes sont en train de finaliser cela, mais aujourd'hui il n'y aura pas de problème de chiffrage sur notre budget parce que en face de chaque dépense il y a des recettes supplémentaires. Et ceux qui aujourd'hui ont mis la France dans la situation que votre économiste décrivait, une dette qui explose, un déficit abyssal, ce sont les macronistes.
Mais vous pensez
ce sont
possible
les macronistes
de financer...
qui aujourd'hui nous donnent des leçons de bonne gestion et d'économie. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui devraient présenter un chiffrage, ce sont les macronistes. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont annoncé des dépenses de 50 milliards et quand, en fait, deux ans après, on se rend compte qu'on parle de 133 milliards.
Mais est-ce qu'il est possible de financer ce programme
Évidemment
sans augmenter la dette?
Il est tout à fait... Alors, augmenter la dette n'est pas tant le problème que ça, à partir du moment où l'on est capable de la gérer. Ce qui est certain, c'est que nous sommes capables de financer tout cela sans que 92% de la population ne voit leur impôt augmenter. Donc, c'est-à-dire qu'avec notre réforme fiscale, 92% des Français vont voir leurs impôts baisser ou rester au même niveau. Seuls les 8% les plus riches verront leurs impôts augmenter, et puis les entreprises évidemment, qui aujourd'hui se gavent de profits sans avoir les taxations qui vont à côté.
Est-ce que vous entendez l'argument sur les salaires qu'un SMIC à 1600 euros, c'est ce que dit le ministre de l'économie, conduira forcément à plus de chômage? Alors, parce que certains patrons refuseraient d'embaucher, ou parce que même ils seraient peut-être obligés de licencier dans les PME?
Alors, que le ministre de l'économie nous donne des leçons, c'est assez drôle quand on voit son bilan. Non, à aucun moment il n'a été démontré que l'augmentation du SMIC allait augmenter le chômage, bien au contraire. Notre programme vise à relancer l'économie, relancer la consommation populaire. Quand on crée de la consommation, on crée des emplois parce qu'on crée des besoins. Et un patron, il ne va pas s'arrêter d'embaucher quelqu'un à cause de son salaire si le carnet de commandes est plein.
Un mot de l'international, puisque ça figure également dans votre programme, la nécessité de défendre l'Ukraine et la paix sur le continent européen. Alors, on ne peut pas tout citer, hein, mais on entend évidemment la concession faite au socialiste Raphaël Glucksmann pour conclure cet accord. Il est dit qu'il faut défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien par la livraison d'armes nécessaires. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce qu'on tient par exemple la promesse de livrer des Mirage 2000 à Kiev dans les prochains mois, comme ça a été promis?
Alors, il n'y a pas de concession. Ces positions sont celles de la France insoumise depuis le début du conflit, c'est-à-dire la défense de l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine dans une guerre que la Russie ne doit pas gagner.
Ni sur le Proche-Orient, ni sur l'Ukraine, vous n'avez fait de concession au socialiste Raphaël Glucksmann?
D'accord. Absolument pas. C'est peut-être que notre programme a été déformé dans les médias jusqu'à maintenant, mais en tout cas, il n'y a pas de concession là-dessus. Sur l'Ukraine, nous avons toujours dit que nous la défendrons. Les armes nécessaires, ce sera à discuter avec les Ukrainiens et ne pas faire des annonces fracassantes qui au final pourrait être contre-productif pour les Ukrainiens.
Merci Bastien Lachaud.